Prépa Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Depuis plus de 27 ans, Profil est la référence en rock progressif. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 17 mai 2024. En cette journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, l'Alliance Arc-en-Ciel invite la population à un spectacle de lutte haut en couleur dans le but de célébrer la diversité et l'inclusion. Pour l'Alliance Arc-en-Ciel, c'est l'occasion d'exprimer son soutien envers les membres des communautés 2SLGBTQ+, et leurs alliés, tout en célébrant la force de la diversité. Lors de cette soirée, il sera également possible de rencontrer les organismes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres de la capitale nationale et de découvrir leurs différents services. Le tout a lieu au Centre Horizon, 801 4e rue, à compter de 19h. La première édition de la Semaine du patrimoine débute aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 26 mai. Pendant toute la durée de l'événement, plus de 80 activités gratuites sont offertes dans plusieurs lieux de tous les arrondissements. Cette semaine d'activités est une occasion de célébrer le patrimoine de Québec sous toutes ses formes et de développer ses connaissances et son attachement envers celui-ci, a affirmé la responsable du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Québec, Mme Mélissa Coulombe-Leduc. Plus de détails sur le site web de la Ville de Québec. La Bouée, Société de préservation et de développement de l'habitat communautaire, pourra acquérir le lot situé au 12 223 rue de l'Hôpital dans l'arrondissement La Haute-Saint-Charles. L'organisme a obtenu le versement d'une première subvention de 960 000 $ par la Ville de Québec, qui procédera à l'adoption d'un règlement pour permettre la construction du bâtiment de 52 logements. Celui-ci comptera 4 étages et sera destiné à des familles et des personnes seules avec faible revenu. Le projet déposé par la Bouée a été retenu dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec. Demain, une journée familiale et festive clôture le Festival de la décroissance. Des kiosques, ateliers, une grande donnerie, des animations et un spectacle d'artistes engagés sont au programme de cette journée dans la cour arrière du Centre Jacques-Cartier et sur la rue Notre-Dame-des-Anges. Il sera également possible de découvrir des initiatives citoyennes et communautaires qui font écho aux valeurs et principes de la décroissance. Notez que ce soir, une conférence sur les problématiques d'un capitalisme algorithmique et des perspectives vers un post-capitalisme technologique sobre a lieu à compter 19h au Dôme du Centre Jacques-Cartier. Également demain, Limoilou en petite roue. Cet événement cycliste se déroule dans le quartier Limoilou en partance de l'école La Grande-Hermine à compter de 9h. Une clinique de mécanique vélo sera disponible pour les ajustements de début de saison. À l'arrivée au parc Cartier-Brébeuf, le trajet se termine sur les lieux de la fête des petits trésors avec des kiosques, des animations et des jeux pour les enfants et leurs parents. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité.
C'est une expérience surprenante, mémorable et enrichissante que de se perdre en forêt à n'importe quelle heure. Souvent, en pleine tempête de neige, même en plein jour, arrivant au carrefour d'une route bien connue, il peut vous arriver d'être incapable de dire dans quel sens il convient de la prendre pour se rendre au village. Vous avez beau savoir que vous l'avez emprunté un millier de fois, vous ne pouvez en reconnaître le moindre trait. Elle vous est tout aussi étrangère que si ce fût agi d'une route de Sibérie. De nuit, bien sûr, votre perplexité est infiniment plus grande. Dans nos promenades les plus triviales, nous passons notre temps, quoique inconsciemment, à gouverner comme des marins en nous fiant à certains phares et amers bien connus. Et s'il nous arrive de pousser au-delà de notre cours habituel, nous gardons toujours à l'esprit le cap de quelques promontoires voisins. Et ce n'est que lorsque nous sommes totalement perdus ou retournés, car il suffit à un homme de se faire tourner une fois ou deux les yeux fermés pour se perdre dans ce monde, que nous apprécions la vastitude et l'étrangeté de la nature. Tout homme doit réapprendre les points de la rose des vents à chaque fois qu'il s'éveille, que ce soit d'un sommeil, d'une rêverie ou d'une pensée quelconque. Ce n'est qu'une fois perdu, ou, pour dire la chose différemment, ce n'est qu'une fois que nous avons perdu le monde, que nous commençons à nous trouver nous-mêmes, que nous comprenons où nous sommes et que nous saisissons l'étendue infinie des relations que nous avons avec le monde.
Nous ne serons pas seuls.
Alors, bienvenue dans toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler de revenus de base avec Luc Gosselin, qui est de l'organisme Revue de base Québec. Avant ça, on va, j'ai quelques lectures et quelques annonces, là. Pour commencer, j'ai dans le devoir de samedi dernier quelque chose qui a retenu mon attention, un texte de Louis Cornelier, qui est chroniqueur là, habituel du samedi dans le devoir, « Devenir écolo ». Et bon, il est intéressant son article parce qu'il parle un peu de sa démarche, pourquoi il est devenu écolo. On n'est pas écologiste, on le devient, écrit le journaliste français Lucas Scalatrini. La formule me séduit parce qu'elle rejoint mon expérience et celle, j'en suis convaincu, de nombreux d'entre vous. Les écologistes, ben là, il se positionne, il dit qu'il est mal à l'aise avec les écolos trop intenses, mais en même temps, il comprend. Entre autres, ce qui a attiré mon attention, c'est que un peu plus loin, il dit, il parle de simplicité volontaire. Il dit certains, évidemment, surtout les plus riches, devront faire plus d'efforts que d'autres. Pour avoir une idée des devoirs qui nous attendent, il faut d'abord calculer notre empreinte carbone. Il y a des sites pour ça, on peut calculer notre empreinte carbone. Puis là, il dit, simplicitaire par tempérament, donc sans effort, je pointe à 5,3 tonnes, selon le site Nos gestes climat. Jamais d'avion, une voiture moyenne qui a 20 ans et qui ne sert pas souvent, de vieux électroménagers et ça plombe mon bilan de la viande au menu. Mais ce que j'ai retenu, c'est, il dit simplicitaire. Simplicitaire, on le voit pas souvent. C'est un mot qui a été, on peut dire, inventé par les simplicitaires du Québec. À l'époque, on avait plusieurs groupes de simplicité volontaire, mais au début des années 2000. Puis on avait choisi le mot « simplicitaire » pour désigner ceux qui pratiquent la simplicité volontaire. Et quand vous allez sur le site des Amis de la Terre, dans la section « Simplicité volontaire », on a un bulletin, là, on est le comité « Simplicité volontaire des Amis de la Terre », on a un bulletin qui s'appelle justement le « simplicitaire ». On essaie de faire connaître cette désignation-là. Le mot, le concept « simplicité volontaire », on l'entend souvent, peut-être pas toujours bien compris, mais on l'entend souvent. Les gens ont pas mal tous entendu parler de simplicité volontaire. C'est rendu commun. Mais l'autre étape, c'est de parler du mot simplicitaire. Puis là, ben, on le voit aujourd'hui. Je pense que M. Cornelier, pourquoi qu'il utilise ce terme-là, c'est qu'il a déjà écrit un article sur Dominique Boisvert, qui était un des piliers à l'origine là, du mouvement de simplicité volontaire, qui est décédé il y a... durant la pandémie, là, 2-3 ans. Puis Louis Cornelier, je pense qu'il connaissait, il a écrit un article sur M. Boisvert et Dominique Boisvert. Et ça doit être pour ça qu'il connaissait le terme simplicitaire, parce qu'on le voit pas souvent. En tout cas, petite parenthèse dans le devoir. Autrement, pas beaucoup dans l'actualité, pas beaucoup de choses. Un article dans le devoir d'hier, dans la chronique environnement, qui parle des feux de forêt vers un autre été à risque de brasier. Les projections prévoient des conditions favorables aux incendies dans les forêts du Québec en raison de la chaleur. On pense qu'on se dirige encore vers un été de... C'est déjà commencé derrière, dans l'ouest, on le voit, là, le Fort McMurray qui est en train de se faire évacuer, puis il y a un autre village, là, je ne me souviens plus du nom, en tout cas, qui a été évacué là, en Colombie-Britannique, je pense. Une combinaison de températures élevées et de conditions de sécheresse risque de conduire encore cette année à une saison de feux de forêt active et intense à laquelle le Québec n'échappera pas, prévient le consortium scientifique Ouranos dans une analyse publiée mercredi. Si la saison 2023 s'est avérée exceptionnelle, les projections pour cette année prévoient des conditions favorables aux incendies de végétation, laissant planer la perspective d'une nouvelle saison à risque, souligne ainsi Ouranos en s'appuyant sur des données provenant de Ressources naturelles Canada. Aussi, dans le devoir de lundi, les changements climatiques, encore une fois, les changements climatiques augmentent le risque d'une autre pandémie. L'humain a créé un monde dans lequel les maladies sont de plus en plus susceptibles de se développer, conclut une étude parue dans Nature. En dégradant l'environnement terrestre humain, l'humain a créé un monde dans lequel les maladies sont de plus en plus susceptibles de se multiplier. Les insectes qui propagent les infections, les moustiques et les tiques, par exemple, prospèrent sur une planète réchauffée par les émissions de combustibles fossiles. Lorsque la pollution, la chasse ou l'intervention humaine pousse des organismes rares à l'extinction, les parasites prolifèrent parce qu'ils ont évolué pour cibler les espèces les plus abondantes. C'est que ça, c'était dans le Devoir de lundi, article du Washington Post de Scott Dance, qui est publié dans page A8 dans le Devoir de lundi. Suite de ça, ben, dans les revues, toujours le dernier Philosophy Magazine, qui est toujours excellent. Le dernier, particulièrement, je le trouve pas mal bon. Comment cultiver la bonne humeur? Plusieurs bons articles. Entre autres, sur la bonne humeur, là, il y a plusieurs articles qui sont écrits là-dessus. Puis, ce qui est intéressant, on vit tout ça, c'est que on prend comme une journée type. Attendez que je vous trouve. On prend une journée type, un jour sans plainte. Puis on sait que notre humeur, on est tous comme ça, notre humeur change une journée. Il y a des hauts, puis il y a des bas. C'est pas égal là, toute la journée. Puis l'article est fait comme ça, c'est comme un parcours. Puis là, oups, attention, ça baisse, attention. Puis là, ben, on commence le début de la journée. Bien commencer sa journée avec Sénèque. Alors, on dit le début d'une journée est aussi important que les premières lignes d'un roman. Il ne faut pas se rater. Pourtant, si nous plongeons d'emblée dans notre planning surchargé, nous gâchons un beau moment. Sénèque, dans La brièveté de la vie, nous engage à ne pas suivre la folie, ne suivre la voie de ceux qui plongent dès le réveil dans l'affairement à vide. Et un mécontentement grognon. Accueillir le jour, qu'il soit morne, voire carrément moche, permet de ne pas y projeter de désirs trop grandioses ou d'inquiétudes paralysantes. Sénèque propose d'ailleurs de concevoir toutes les journées à l'instar d'une vie. La matinée est le moment de l'enfance innocente en pleine découverte et de quoi donner envie de se lever. Puis là, ben, c'est ça, tout l'article se poursuit. Un peu plus loin, on parle, il y a Marc Aurel, supporter les transports, comment, parce que là, on va aller travailler, ou en tout cas, comment supporter les transports, on va rencontrer des gens qui sont désagréables. Alors, des conseils de Marc Aurel, après ça, il y a un creux, avec, un coup de sang, là, c'était un autre philosophe, puis après ça, ça remonte. Spinoza, du plaisir à travailler, etc. Toute la journée, comme ça, avec les hauts et les bas, puis comment y faire face. Par exemple, il y a apprécier les rituels. Ça, c'est un petit texte de Goethe. Il dit, ne laissez pas passer les petits rituels. Le café en est un. Ce plaisir est insignifiant, mais vous ne pouvez vous en passer. Pourquoi? L'écrivain allemand, Johann Wolfgang von Goethe explique dans Vérité et Poésie que ce qui rend la vie non pas heureuse, idéal trop élevé, mais pleine d'agréments et de plaisirs, c'est le retour régulier à des objets extérieurs. Retrouver la joie du matin ou la mélancolie du crépuscule, voir revenir les saisons, goûter chaque jour à la même heure la chaleur et le goût du café, voilà les vrais ressorts de la vie terrestre. Plus nous sommes ouverts à ces petits plaisirs et plus nous nous sentons heureux. Mais si la diversité de ces phénomènes s'agite sous nos yeux sans que nous y participions, si nous ne sommes pas réceptifs à ces douces tentations, alors survient le plus grand mal, la plus grave maladie. L'on considère la vie comme un poids nauséeux. Encore une tasse. Alors c'est comme ça, c'est... Je trouve ça sympathique. Puis, plus loin, il y a un article, un très bon texte de la philosophe Simone Veil, plus une révoltée en quête d'absolu. En tout cas, c'est le Philosophie Magazine qui est en kiosque présentement que je vous recommande. Puis finalement, ben vous l'avez entendu dans le bulletin de nouvelles, c'est le Festival de la décroissance là, au Centre Jean Cartier. Ce soir, là, il y a une conférence de Jonathan Folco. Puis samedi, c'est des activités toute la journée. Vous voulez savoir le détail de la programmation, simplement aller sur le site des Amis de la Terre. Alors voilà. Alors, petite pause musicale, puis on revient avec Luc Gosselin pour notre thématique d'aujourd'hui sur le revenu de base. C'était Yann Tiersen, la pièce Les Jours Tristes, c'est de la trame sonore du film, la très belle trame sonore du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Puis auparavant, Joran qui chante sur le CD de Richard Séguin, Retour à Walden. La pièce, c'était Je rêve à demain. Alors, voilà. Alors, bonjour, Luc. Ça va bien?
Oui, très bien. Merci, Jacques, pour toutes ces belles citations qui font une bonne introduction au revenu de base.
Bon, super. Ça fait que c'est pas la première fois qu'on fait une émission. On fait toujours un retour. Je pense que c'est la deuxième ou troisième fois.
C'est la troisième maintenant.
Troisième fois. Oui. Mais c'est toujours bon. On va y aller avec faire un survol là, du revenu de base, pour juste situer nos auditeurs, puis après ça, on ira plus parler des choses plus récentes ou plus actuelles.
Oui, c'est ça. Bien, le revenu de base, l'idée du revenu de base, ce serait de faire que toutes les personnes d'une société donnée, comme une province ou un pays ou un État quelconque, qui s'assurerait que tous ces citoyens et citoyennes ont un revenu de base pour que personne tombe dans la pauvreté extrême et aussi pour être capable de passer, par exemple, d'un emploi à un autre avec une période de formation ou des choses comme ça. Donc, une fluctuation dans les revenus. Parce que, bon, il y a la pauvreté, bien sûr, qu'il faut chercher à diminuer et même à éradiquer, absolument. Mais tout le monde, de plus en plus, on va passer par différentes étapes dans notre vie de travail, de formation et tout ça. Alors donc, c'est une chose à laquelle il faut penser. Et puis, c'est le principe de base, c'est de ne pas avoir, ne pas descendre en bas d'un revenu qui permet de vivre convenablement, de se loger, se nourrir, s'habiller, etc., la vie normale.
Puis, tu sais, ce que j'aime beaucoup du revenu de base aussi, c'est que en tout cas, ça diminue la pression d'orienter nos vies en fonction du besoin de gagner sa vie.
Toutes les citations là, que tu as présentées, Jacques, là, sont tout à fait liées à ça. Parce que l'une des choses que permettrait un revenu de base, l'assurance d'un revenu, ça donne du temps. Ça donne un point de vue relaxé face à sa vie. Alors donc, parce qu'il y a moins de stress de gagner sa vie absolument, là, puis de passer d'une chose à l'autre avec intensément. Là. La citation de Sénèque qui dit que pour commencer une journée en prenant son temps, là, de l'accueillir, la journée, ben je pense qu'il y aurait plus de gens qui feraient ça spontanément s'il n'y avait pas la pression du travail et tout ça. Alors donc, c'est ça. C'est tout à fait dans l'esprit un esprit qui serait plus nombreux, qui serait plus comment dire, naturel pour tout le monde de prendre son temps un peu plus et puis de réfléchir. Et on serait plus philosophe, je pense, un peu.
Plus on serait philosophe, plus sincère. Et aussi, moi, sur la route, ça me frappe comment il y a de l'agressivité sur la route. Il y a une compétition. Puis ça traduit un peu, je dirais, ce qui fait bouger la société beaucoup, c'est les gens sont pressés, veulent gagner leur vie, travailler, puis on valorise ça beaucoup. Puis on parle peu de profiter de la vie, donner un sens à sa vie, apprécier sa vie. Il y a des gens qui sont tellement motivés par faire de l'argent, disons-le, qu'ils passent à côté de leur vie.
Mais ce qui arrive, c'est qu'on consomme un peu trop pour rien, là. Et puis, ça fait une pression sur le revenu nécessaire pour avoir ce confort-là. C'est ça qui est... La grande difficulté, par exemple, par rapport à l'environnement de plus en plus, je pense, moi, c'est que c'est le confort. On est un peu endormi dans le confort, puis on ne se rend pas compte qu'on pourrait s'en sortir, en fait, là. Mais bon, c'est autre chose. Là. Mais c'est ça. Donc, un revenu de base ferait qu'automatiquement, je crois, on aurait moins de pression à gagner absolument beaucoup d'argent pour vivre dans le confort. On aurait du temps. Et puis, on penserait un peu plus.
Bien, il y a comme en même temps un confort minimal.
Oui.
C'est ça que nous, en Simplicité volontaire, on dit, bien... le confort, c'est pas mauvais. Là. Quand on est... On dit, il y a comme une courbe de satisfaction de l'argent, on appelle ça, nous autres, de la courbe. Puis au bas de la courbe, au début, là, c'est des gens qui sont en mode de survie, là, qui mangent, qui vivent à moins d'un dollar par jour dans les pays du tiers-monde. On en a passé ici, mais on a des gens quand même en difficulté ici. Et là, à ce moment-là, il y a un avantage à avoir plus de revenus, là.
Oui, mais je voudrais absolument que passer une partie de l'émission pour être sûr que les gens savent qu'on a un programme de revenu de base au Québec. Hein?
Ouais, oui.
Et puis que le Québec est relativement avancé sur ce sujet-là, dans le monde même, parce que moi, je suis en contact avec ce qui se passe à travers le monde là, sur le revenu de base par diverses participation à des organisations. Et puis, je ne vois pas d'autres sociétés au monde qui ont un programme de revue de base comme loi permanente, votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, et bon, qui a été rendu public en 2023, en janvier 2023. Il y a peut-être des personnes qui sont rendues compte de ça, mais qui avait été votée en 2018, là, dans le cadre d'un programme qui est dans la une loi de 2002. En tout cas, bon, le Québec est relativement avancé dans ce sujet-là. Et puis, donc, on a un programme de revenu de base, mais pour les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. Et puis, j'aimerais bien qu'on décrive un petit peu ce programme de revenu de base.
Bien, c'est justement, je pense que tu as ouvert la porte. Parce que c'est pas un programme. On a le revenu de base au Québec, ce qui est exceptionnel, mais c'est pas pour tout le monde. Là.
Non, vraiment pas. Et puis, c'est aussi inscrit dans une sorte de progression de l'assistance sociale. C'est-à-dire que pour avoir le programme de revenu de base pour les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi, donc qui ne peuvent pas travailler, ou très peu, des handicapés de toute espèce. Là. Ça peut être mental, ça peut être physique, c'est de toute espèce. Mais on entre dedans par le dernier recours, l'assistance sociale, la solidarité sociale. Puis ça prend 5 ans avant d'être reconnu comme ayant des contraintes sévères à l'emploi. Alors donc, c'est quand même dans le processus très contraignant de l'assistance sociale qu'on a au Québec. Alors donc, c'est pas le pactole. Cependant, ça a trois caractéristiques qui sont essentielles au revenu de base. C'est individuel. Toute l'assistance sociale et la solidarité sociale est liée à une sorte de famille, hein, les personnes qui vivent ensemble. Si quelqu'un n'a pas de revenus ou très peu de revenus dans un couple, puis que l'autre a un bon revenu, ben là, c'est le revenu de l'autre qui compense, qui doit compenser, qui annule l'assistance sociale.
Ouais.
Alors donc, c'est individuel. L'autre personne d'un couple donné peut gagner des dizaines de milliers de dollars et puis ne pas avoir à contribuer au revenu de base de la personne. Et puis, c'est cumulable. L'assistance sociale n'est pas cumulable vraiment. C'est-à-dire qu'on peut gagner 200 dollars de plus par mois. Maintenant, je pense que c'est 220 dollars, une grande amélioration ces derniers temps. Là. Bon. Et puis ensuite, chaque dollar supplémentaire est enlevé de l'assistance sociale. C'est de l'imposition à 100 %, ou presque. Alors donc, le programme de revenu de base, donc pour les personnes qui ne peuvent pas travailler, c'est individuel, c'est cumulable. Ils peuvent gagner jusqu'à 2 fois leur revenu de base. Et puis, c'est lié au panier de consommation, c'est-à-dire, ça se trouve être lié à l'inflation. Mais le panier de consommation, c'est le montant nécessaire pour se loger, se nourrir, etc. Et puis, c'est une analyse de Statistique Canada. C'est très, très précis. C'est le revenu de base pour une personne seule à Montréal et X. Pour quelqu'un qui vit en campagne ailleurs au Québec, c'est X. Ça dépend des choses, là. Et puis, par couple et tout ça, là aussi. Donc, c'est lié à quelque chose, une statistique solide. Et puis, ça suit l'inflation. Tandis que l'assistance sociale, d'aucune espèce de façon, suit l'inflation. Ça progresse très lentement et puis c'est très, très loin de revenus qui conviennent pour vivre normalement.
Mais ça, c'est tout à notre honneur. Hein. D'ailleurs, faut le mentionner quand même, on ne réalise pas, mais au Québec, on est l'endroit le plus progressiste en Amérique du Nord.
Oui, puis on n'est pas loin des plus progressistes au monde même.
Ben oui, puis disons que les pays scandinaves, peut-être qu'ils nous battent un peu, là, mais quand même, c'est surprenant. Puis c'est le filet social qu'on a au Québec, c'est énorme parce que ça permet de limiter beaucoup la grande misère qu'on voit aux États-Unis où les inégalités sont hallucinantes. Là, on réalise pas comme les États-Unis progressivement sont en train de devenir un pays du tiers-monde malgré leur richesse parce que qu'est-ce qui caractérise un pays du tiers-monde, c'est que t'as pas de classe moyenne.
Ouais.
T'as des très riches puis des très pauvres. La classe moyenne s'érode aux États-Unis là, progressivement, où il y a comme une espèce de partage là, qui est en train de se faire. Là,
il y a une sorte de nouvelle aristocratie par la richesse aussi qui est créée. Là. C'est une autre façon de dire la même chose. Là. C'est donc les riches sont... C'est devenu une sorte d'aristocratie de la richesse, du patrimoine. Et puis, bon, il y a peu de personnes au centre, là, oui.
Puis c'est vraiment à l'honneur des Québécois qu'on accepte de partager la richesse, d'avoir des impôts les plus élevés. Là, on parle souvent, on est les plus imposés, mais on ne dit pas qu'on est aussi les mieux qu'on partage. On a une des meilleures qualités de vie. D'ailleurs, il y a des indices là, qui sont mesurés là, de la meilleure qualité, les indices de bonheur, qu'appelle. Oui, c'est ben, des indices de qualité de vie dans le fond.
On n'est pas trop loin en haut dans le.
On est assez haut.
Oui.
Puis quand l'exercice est fait, parce que c'est par pays, mais quand on ramène ça au Québec, là, on est en haut de la liste, là, assez haut.
La dernière chose que j'ai lue, moi, sauf erreur, c'est le Canada, c'est 9e au monde pour l'indice de bonheur. Et le Québec, là-dedans, était en 6e position.
Oui.
C'était un État, là.
C'est
ça. Ben, et alors, c'est un pays où, en tout cas, mais c'est géré par État aussi, province, etc., là, oui.
Fait que c'est gagnant pour tout le monde.
Oui. Et mais c'est pour ça que en ce moment, avec le programme de revenu de base qu'on a, qui a tous les défauts que je viens de dire, là, il faut passer par tout un labyrinthe administratif avant de l'obtenir. Mais j'ai parlé avec quelques personnes, moi, ces derniers temps, qui l'ont. Et puis, la chose qu'on me dit tout le temps, ça a changé ma vie. Parce que il se trouve donc avoir un revenu de base qui est pas le pactole, on se comprend bien, là, c'est parce que c'est autour de 20 000 $ pour une personne seule, c'est jusqu'à 30 000 $ ou plus dans certaines... C'est des endroits comme cette île, par exemple, où le revenu de base est le plus élevé au Québec, à cause du transport, à cause de toutes sortes de situations. Alors donc, c'est une mesure très précise et très valable. Je voudrais revenir à une chose qui a été dite, que tu as dite, c'est que on a un filet social important. Un revenu de base, c'est pas un filet dans lequel on tombe. On aime dire que c'est un socle. C'est ce sur quoi on marche, qui est la base d'une vie normal, là, donc, dans nos circonstances. Alors, donc, c'est pas quelque chose où on tombe. Mmh. Justement, l'assistance sociale est quand même un filet,
oui,
dans lequel on tombe, avec le dernier recours et tout ça, là. Alors que le revenu de base, et ça, c'est la particularité. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui me disait qui a l'air d'être à l'aise, mais qui a une fille qui a des contraintes sévères à l'emploi, qui a eu le revenu de base. Il dit ça a changé notre vie. Il n'y avait pas nécessairement besoin au niveau familial d'avoir ce revenu-là de plus, mais ça a changé la vie de la jeune fille, de l'enfant. Bon, elle est pas jeune, mais elle vit chez ses parents parce qu'elle ne peut pas travailler. Tout à coup, elle avait un revenu personnel, individuel, au sein de sa famille. Alors donc, ça change son rapport avec... elle participe à la vie de la famille financièrement. Et ça change sa vie, évidemment. Ça change la vie de la famille parce que ça fait une autre dynamique. En tout cas, bon, il y a toutes sortes et puis évidemment, bon, les personnes qui étaient dans la grande pauvreté, tout à coup sont devenues autonomes.
Écoute, on va prendre une petite pause musicale,
avec plaisir.
Puis on poursuit au retour.
C'est toujours des belles pièces que tu présentes.
Assez tôt du matin, parce qu'en quelque part il sait que ça lui sert à rien. Il a préféré s'aîner au salon étudiant plutôt que de se faire chier dans un prof emmerdant. Il fait sans ambition, un deck en sciences humaines, un peu à reculons sans trop se donner la peine. Il voulait être comédien, mais ses parents lui ont dit que c'était pas un bon chemin pour être heureux dans la vie. Fait qu'il a pignaise pour rien dans ses études. Pour lui c'est de la foutaise, la crise de platitude. La seule chose qui l'allume, c'est son équipe d'impro ou les pétards qui se fument quand il fait de la radio. Mais sa maman espère qu'il devienne avocat, qu'il fasse un bon salaire, un peu comme son papa. Mais si tu es pas un con, c'est bien que pour être heureux, faut vivre pour ses convictions et non pour celles de ses vieux. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Si tu vas tenter ta chance et mettre ton chemin dans la vie, parce qu'au fond le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir.
ta petite histoire. Il y a son grand frère, un genre insignifiant, vendeur de cellulaire, qui pensait qu'à l'argent, qui lui dit cette valeur, t'auras jamais d'ouvrage, parce que devenir acteur, c'est péter des nuages. Sa vie est toute tracée, il se pose jamais de questions, oui, à entendre parler, c'est toujours lui qui a raison. Son petit cul s'en balance, il sait que les gens bornés veulent masquer leur impuissance en essayant d'écraser. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Si tu vas tenter ta chance et fais ton chemin dans la vie, parce qu'au fond, le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir. Ta petite histoire. Une chance que sa copine, une fille qui est super fine, qui au moins le comprend, ici qu'il y a du talent, elle lui dit s'accrocher, continuer à croire qu'il sera peut-être accepté dans un conservatoire, et qu'il y a toujours l'option, même si c'est en attendant, faire la figuration dans les téléromans. Parce que pour vivre sa passion et pas regretter plus tard, faut bien comme de raison que tu commences à quelque part. C'est pour ça que demain, il va tout abandonner aux diables et aux crétins qui veulent pas l'encourager. Parce qu'il sait que le vrai plaisir, au fond, c'est de pas savoir comment qu'elle va finir sa petite histoire. Garder son esprit libre, trouver un peu d'équilibre. Pour le reste, il s'en fout ben, t'y plus hâte à demain.
C'était des Cowboys fringants de l'album La Grande Messe. C'était la pièce Ticu qui parle justement des pressions qui sont faites sur les jeunes pour gagner leur vie puis qui ratent leur vie, là, dans le fond.
C'est un thème récurrent, ça.
Oui.
On entend cette réflexion-là tout le temps ces derniers temps, oui.
Bon. Alors, où en étions-nous?
Oui, ben moi, j'ai une chose que je voudrais parler, c'est qu'avec un autre groupe dont je suis membre, c'est l'Alliance Revenu de Base des Régions Est. C'est-à-dire, c'est un groupe qui a été formé du Rassemblement des Assistés Sociaux du Témiscouata et la Santé publique de Gaspésie et de la Madeleine. C'est pour ça qu'ils s'appellent Alliance. Ils se sont rendus compte que l'un et l'autre qui s'intéressaient aux revenus de base. Et puis, ils sont alliés pour créer l'Alliance revenu de base des régions Est, puis il y a un projet pilote sur le revenu de base là-bas. Mais la raison pour laquelle je voudrais en parler, c'est qu'on utilise l'expression assurance revenu. Comme une partie du groupe, c'est la santé publique et donc sur la santé, et l'effet sur la santé d'un revenu de base, et parce que c'est un des avantages connus bien documenté des avantages d'un revenu de base. Là. La santé des populations qui reçoivent un revenu de base s'améliore immédiatement. À Dauphin, au Manitoba, dans les années 70, 8,5% moins d'hospitalisation parmi ceux qui avaient le revenu de base.
Eux autres, ils avaient fait ça à Dauphin, ils avaient fait une expérience, oui. Une vraie expérience.
4 à 5 ans. Et puis, le seul problème, c'est que ça avait été fermé un peu plus tôt que prévu, et puis ça n'avait pas été analysé. Alors, mais bon, il y a quelqu'un, un chercheur de l'Université de Manitoba qui a trouvé toute la documentation, qui l'a analysée, puis qui a, entre autres, découvert ce que je viens de dire.
Parce que les autres, c'était le vrai, là.
Oui, oui.
Les autres, c'était l'expérience, et tout le monde avait...
Absolument.
C'était le revenu universel.
Oui, mais ils pouvaient le refuser. C'est tout.
OK, il pouvait le refuser.
Bon, c'est ça, mais c'était... Parce que quelques personnes le refusaient, puis des personnes qui n'en avaient pas besoin et qui l'avaient quand même, ça a été analysé, ça, bien, ils disaient, bien, tout le monde l'a, pourquoi pas? Et éventuellement, quelqu'un qui avait un bon salaire, bien, de toute façon, ça entrait comme revenu, là.
Il leur donnait à l'impôt.
Bien, il en donnait une partie, au moins, à l'impôt. En tout cas, bon. Mais donc, ce projet-là, l'Arbre, on l'appelle l'Arbre aussi, Alliance Revenu de Base Région Est, c'est... On utilise là la notion d'assurance revenu. Parce que, bon, et comme c'est des gens en santé, donc il y a l'assurance maladie, assurance revenu. L'assurance maladie, t'es malade, tu l'as, t'es soigné. L'assurance revenu, t'as pas X montant, on comble. T'sais, si tu as zéro, ben, puis que tu as droit à un revenu de base de 20 000 $ par année, tu as 20 000 $ mais si tu gagnes 10 000 $ ben là, tu as seulement 10 000 t'sais? Mais c'est une assurance revenu de base. Et puis, pour faire comprendre plus facilement de quoi il s'agit, parce que le revenu de base, bon, on se dit, bon, il y a le revenu minimum garanti aussi qui existe, qui est une bonne façon de l'appeler. Puis revenu de base, ben, c'est générique, ça ne donne pas de précision. Ça veut dire quoi, revenu de base, etc. Tandis que si on dit assurance revenu et qu'on dit que le revenu minimum est X à Chicoutimi ou à Québec ou Dieu sait où, là, parce que ça, c'est calculé selon la mesure du panier de consommation, qui est une mesure statistique de canadienne, qui existe un peu partout au monde. Là. C'est pas c'est courant. Alors donc, ben là, c'est automatique. Et c'est sur le revenu sur la déclaration de revenus. Automatique. C'est-à-dire tout le monde y a droit. C'est pas tout le monde qui le reçoit.
Mais ça, c'est à quel endroit, ça?
Bien, c'est dans l'Est du Québec qu'on est en train de faire cette... on va proposer quelque chose dans quelques années sur avoir un projet pilote dans ce coin-là.
OK.
Et puis là, on s'est mis à l'appeler assurance revenu.
Comme à Dauphin, dans le fond.
Oui.
Comme à Dauphin.
C'est ça, exactement. Oui. Là, c'est ça, là. Mais donc, ça serait au moment de la déclaration de revenus que ça se passerait, là. Et puis, bon, il y aurait une mécanique à établir, là, pour l'avoir d'avance un peu, ça faudrait se fier sur le revenu près de l'année précédente. En tout cas, bon, il y aurait un peu d'administration à mettre là-dedans. Il y aurait un petit peu de technique et de règlement, là, bien sûr. Mais l'idée de base est simple. Et surtout, elle est bien connue à cause de la comparaison avec l'assurance santé et l'assurance maladie. Alors donc, on est en train de travailler là-dessus. On présente l'idée à toutes les fois qu'on le peut. Et puis, ça éclaire bien le débat. Là. Ça parle tout de suite, ça. Là. L'assurance maladie, t'es malade, tu l'as. Bon. C'est un peu lié aussi à l'idée d'assurance chômage, quand même. Mais bon, évidemment, c'est autre chose parce qu'il faut avoir cotisé et tout ça. Tandis que là, l'assurance revenu, on cotiserait par nos impôts, là. C'est en quelque sorte, mais ce serait général. C'est pas lié à de l'emploi. Parce que c'est ça le problème majeur avec le programme de revenu de base pour les personnes ayant des contraintes sociales à l'emploi. Contraintes sociales à l'emploi. Il y a le mot emploi. Il y a le mot travail, là. Alors donc, ça fait les bons pauvres et les mauvais pauvres. Hein? Ceux qui peuvent travailler, puis ils travaillent pas, c'est des mauvais pauvres. Là, peu importe les raisons, mais là, on n'analyse pas trop fort. Et tandis que là, bon, c'est des handicapés qui peuvent pas travailler ou très peu. Ben c'est normal, c'est des bons pauvres en quelque sorte, tu sais, pour des raisons. Alors donc, il faut sortir de ça. C'est pour ça que si on prend une approche du type, je répète, assurance revenu, et que c'est un droit d'avoir un revenu X dans les circonstances, pour le lieu où on vit, avec des mesures statistiques objectives, bien là, c'est un droit automatique. C'est pas lié à l'emploi directement. Alors donc, c'est une idée qu'on cherche à développer là-bas. C'est un des projets intéressants au Québec et au Canada là-dessus. Il y a un autre projet extrêmement intéressant à l'île du Prince-Édouard. Si on a 5 minutes, j'en parlerai avec plaisir.
Ben oui.
Encore, oui. Alors donc, c'est que là, il y a un groupe, une vingtaine de personnes au total qui ont travaillé pendant 2 ans à imaginer une proposition de revenu de base à l'île du Prince-Édouard.
Au complet, l'île...
Oui, c'est ça. C'est 70 000 personnes.
Quand même, c'est une
personnes.
Province au complet. Oh,
c'est ça, oui. Tout là. Mais okay. C'est ça. C'est l'idée d'une société précise, là, qui est circonscrite. Pas un projet d'une partie d'une population. Et puis, donc, des gens ont travaillé là-dessus, des hauts fonctionnaires ou ex-hauts fonctionnaires, des gens qui avaient été élus, qui étaient députés de quelque part ou qui l'avaient été. En tout cas, bon, ils ont brassé des choses. Puis, ils ont fait une proposition de revenu de base. C'est une des choses les plus, qui tient la route le mieux qui existe au Canada, là. À la fois faisable financièrement et faisable socialement et politiquement. et puis dans une dynamique donc sociale fédérale provinciale. Ça ressemble beaucoup beaucoup à ce qui s'est passé pour l'assurance maladie où ça a été implanté d'abord et avant tout en Saskatchewan, hein. Ça c'est peu connu, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et là tout à coup le fédéral a dit bon, ça serait bon pour tout le Canada et puis ils ont mis 5 critères. Si vous avez ces 5 critères-là, on va participer au financement. C'est parti comme ça. Alors, donc, le Québec a lancé son programme de revenu d'assurance maladie comme ça. Alors donc, il pourrait se passer ça au Canada si le projet finissait par être adopté. Là, c'est en discussion là, vraiment à haut niveau fédéral-provincial. Le premier ministre de l'île du Prince-Édouard l'a déposé en main propre au premier ministre Trudeau. Et puis là, les fonctionnaires travaillent là-dessus. Alors ça, c'est un des beaux projets qui existent en ce moment aussi. Il y a des beaux projets concernant le revenu de base. Il y a une conscience de plus en plus grande de l'existence de cette idée-là.
C'est audacieux, en tout cas, comme projet.
Oui.
Parce que... il doit avoir quand même un coût. Autrement dit, il y a un peu un risque là, parce que l'idée là-dedans, j'imagine, c'est qu'au bout du compte, ça s'autofinance un peu. Là.
Bien, c'est-à-dire que ça s'autofinance. L'assurance maladie s'autofinance aussi. Est-ce qu'on voudrait s'en priver maintenant parce qu'on paye plus d'impôts?
Ouais.
Hein, je pense pas qu'on voudrait s'en priver. Là.
Non.
C'est comme. Moi, j'aime bien se dire que c'est. On l'oublie. C'est, l'impôt, c'est comme une participation à une mutuelle. C'est ça, là. C'est pas avec ça qu'on paye non seulement l'assurance maladie, mais aussi les routes. C'est avec ça qu'on paye. Alors donc, on participe bien sûr au financement de notre société, bien sûr.
Mais aussi, c'est que ça doit avoir un impact positif sur les coûts sociaux.
Oui, bien, c'est ça,
il y a des gains.
Ça, c'est une chose qui n'est jamais calculée. Parce que c'est difficile à calculer. Mais 8,5%, je répète, de moins d'hospitalisation, si ça s'avérait pour le Québec, par exemple, on aurait un revenu de base, comme droit à tout le monde, une assurance revenue. Là. 8,5%, ça fait combien d'argent, ça? Si on découvrait la même chose ici, avec un revenu de base, ça serait énorme. Okay? Alors, il y aurait un aspect d'autofinancement qui n'est jamais calculé parce qu'il est très difficile à prévoir. On peut prévoir les coûts.
C'est ça.
Mais c'est difficile de prévoir les revenus, en quelque sorte, ou les avantages sociaux qu'il y aurait, financiers, des avantages carrément financiers.
Puis ça permettrait aussi aux gens, par exemple, de peut-être réduire leur semaine de travail. Puis à ce moment-là, en ayant plus de temps, bien, tous les côtés positifs là, qui viennent d'avoir plus de temps. Là.
Oui, mais c'est drôle parce que toutes les fois que ça a été implanté, plus ou moins, là, donc à Dauphin, bien sûr, mais aussi en Inde, il y a eu un gros projet, en Namibie aussi. Il y a une communauté Cherokee en Caroline du Nord qui a une sorte de revenu de base grâce à un casino. En tout cas, bon, peu importe. Toutes les fois que ça a été implanté sérieusement, c'est que, en fait, les gens travaillent plus. Bien bizarre, mais c'est parce qu'ils entreprennent plus de choses personnelles. Tout à coup, il y a de l'entreprise qui est créée.
Oui, oui, oui.
Parce qu'on oublie souvent ça, là, le côté création de son propre emploi grâce à un projet.
À cause de la marge de manœuvre que ça crée.
Ben oui, c'est ça.
Les gens peuvent s'investir dans des projets ou même faire du communautaire.
Oui, c'est ça, tout à fait. Toutes sortes de bénévolats. Mais y compris, par exemple, le proche aidant.
Proche aidant.
De personnes là, en fin de vie, là, comme ça, là, tout à coup, il y aurait plus de personnes qui tout à coup, pourraient aider un vieux parent ou même un oncle, tante, ou je sais pas trop quoi, ou quelqu'un de façon à proximité, et puis l'accompagner pendant quelques années grâce à un revenu de base et ensuite passer à d'autres choses.
Ça me donne... Ça enlève du stress.
C'est un coup de moins à la société, ça.
Ben oui. Ça enlève du stress aussi, là, de la compétition. Puis de...
Oui, exactement. Puis ça, comme par exemple une femme avec des enfants qui vit dans la pauvreté et qui a le stress d'avoir de la difficulté même à bien nourrir ses enfants, à bien les habiller, qui font rire d'elle ou d'eux par les... Des amis à l'école, ben ça fait un stress absolument épouvantable sur la personne. La plupart du temps, c'est une femme par rapport à ses enfants. Là. Les parents monoparentaux sont presque toujours des femmes, trop souvent. Et puis donc, ça enlève le stress parce que tout à coup, ça donne du temps pour s'occuper de ses enfants, pour les nourrir mieux, pour les habiller mieux et tout ça. Et donc, ça diminue le stress d'une façon extrêmement importante. Et c'est le stress qui rend malade aussi. Non, les gens plus pauvres vivent moins longtemps et sont plus malades que les gens riches.
Puis aussi, je trouve que ce qui n'est pas négligeable, c'est que ça déstigmatise.
Absolument.
Ça, c'est parce qu'on a des... On parlait du filet social tantôt. Le filet social, il y a quelque chose d'un peu stigmatisant
absolument,
là-dedans.
Absolument.
Alors, au Québec, par exemple, les femmes monoparentales ont des grosses allocations familiales qui ça aide un peu. Ça, c'est quasiment pas loin d'un revenu de base. Mais il y a quelque chose de... C'est comme de l'aide sociale. C'est stigmatisant.
Exactement. C'est pour ça que la notion d'assurance comme un droit... C'est juste compter sur le revenu, là. T'as pas le revenu, tu l'as. Alors, donc, c'est tout le monde y a droit. Tout le monde y a droit. Alors, donc, ça c'est pas lié à la pauvreté, c'est pas lié à une situation familiale, c'est lié à rien d'autre que le revenu qui convient, qui statutaire comme droit. Ensuite, le reste, ben là, c'est chacun vit sa vie, là.
Puis, ben là, il nous reste... À peine une minute, là.
Oui. Encore merci de m'avoir invité pour parler de revenu de base.
C'était un plaisir, là. C'est vraiment très près de la simplicité volontaire.
Ça mènerait à ça assez facilement.
Ben oui. Parce que, justement, la simplicité volontaire, c'est pas la pauvreté. C'est plutôt une sobriété. C'est bien différent. Là, c'est pas la pauvreté, c'est pas la misère non plus. Et pour ça, ça prend des... Comme au Québec, c'est plus facile certainement de vivre de la simplicité volontaire qu'aux États-Unis, là, parce que là, c'est simple. Des fois, tu as besoin de plus. Là, c'est nécessaire d'avoir plus. Tandis que la simplicité volontaire, c'est qu'on explore où on peut diminuer nos besoins. Là.
En tout cas, on pourrait y penser.
On pourrait y penser. Ça fait qu'écoute, l'émission est terminée.
Merci.
Merci beaucoup, Luc Gosselin, de... Revenu de base Québec. Oui. Est-ce que vous avez un site Internet?
Oui, revenudebase.québec, tout simplement.
Puis là, j'imagine tout ce qu'on a parlé aujourd'hui,
Une grande partie, oui.
C'est pas mal. Alors, merci encore d'être venu.
Merci à toi.
Puis on va te réinviter l'an prochain, là. Encore une fois, on va se mettre à jour.
Il y a toujours la semaine internationale du revenu de base autour de septembre.
Ah, ben
c'est dans ce contexte-là que je suis venu les deux autres fois.
Bien, on va faire ça.
Merci.
Salut. Bon été.
Au plaisir, merci.
Puis bonne semaine tout le monde. La semaine prochaine, c'est notre dernière de la saison, dernière émission de la saison avec Jacques Sénécal. On va parler du philosophe épicurien Marcel Conche. Alors, bonne semaine tout le monde.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle, les vendredis à midi, en rappel les mardis 16h, sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualité locale, enjeux sociaux, culture, sport, politique... Prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.